Popopop, Yann Popopien et tous les autres aussi, bonjour. On n'est pas très sportif à Popopop, mais pourtant ça fait un moment qu'on court après Marina Foïs. On s'est fait les mollets, comme on dit. Et là aujourd'hui, mercredi 20 octobre 2021, on a enfin réussi à l'attraper. Joie, félicité, gratitude. C'est une longue quête qui trouve ici son dénouement comme une acmé galactique au point d'alignement de planètes à l'orbite aléatoire.
Je raconte, ouais.
Oui, nous en avions tous envie, Marina, nous-mêmes, mais parfois ce métier est ainsi fait que, comme le temps, il sépare, ou tout du moins éloigne ceux qui s'aiment et nous aimons, Marina. Oui, nous avions tous envie de la recevoir pour parler théâtre, cinéma et cigarettes, puisque nombre de ses films ont fait un tabac. Mais quand bien même tabac ou absence de tabac, Marina m'intéresse toujours, et pour une raison sur laquelle nous allons revenir dans un instant, elle est toujours intensément là, quoi qu'elle fasse, comme elle l'est en ce moment, à me fixer de son regard sombre et dense,
non,
qui n'est pas
tendre.
Sans évoquer
chaleureux.
Celui d'un félin prédateur embusqué dans un sous-bois et ayant repéré un malheureux mulot inconscient du sort qui lui pend au nez. Oui, elle est là. Et en même temps, comme dit l'autre, très légèrement ailleurs, à une raisonnable distance. Et moi, j'adore ça. Cette émission a pour titre « Marina, il était une fois ». Oui, on s'est cassé et pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Ma chère Marina, vous voyez ce que je veux dire quand je dis intensément là et légèrement ailleurs?
Je crois, parce qu'on m'en parle souvent de cette petite distance que les gens ressentent avec moi et que je maîtrise pas en fait. Alors, je sais pas, ça doit être une muraille de Chine que je maîtrise pas.
Une muraille de Chine?
Que j'ai... Ouais. Non, mais je dois me protéger. Non, mais bah, en tout cas, on parle beaucoup de ma froideur, alors que moi, j'ai l'impression que ça brûle tout le temps. J'aimerais bien tempérer les choses et j'ai l'impression de pas y arriver. Et on me parle de la distance que j'impose au début. Souvent, en fin de tournage, on me dit au début.
Ouais.
J'ai cru que, mais en fait,
si,
t'es hyper sympa.
Mais si on t'avait vu dès le début comme ça. Donc ça vient pas de moi, c'est pas moi qui carbure de la cafetière, comme on dit.
Non, non, je crois pas.
Bon. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a envie de vous recevoir dans cette émission, mais vous savez, comme moi, les voix de la promotion sont parfois mystérieuses. Alors aujourd'hui, question promo, bah on a du grain à moudre. Deux films à l'affiche en même temps. Un point commun, ce sont deux bons films, ce qui est une bonne nouvelle. Et je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Je ne suis pas en train de faire mon petit vendeur de bagnole. Ok, un autre... Alors, moins commun, ce sont deux films d'une nature, comment dire, différente. Mais on va attendre Charline pour en parler dans quelques instants. Deux films tournés en 2020 qui attendaient leur tour pour sortir sur les écrans. On parlait à l'instant de ce léger décalage qui me plaît tant chez vous. Est-ce que vous le ressentez, vous aussi, en venant parler de films qui sont de nature différente, qui sortent le même jour et que vous avez tourné il y a quelques mois déjà?
Oui, ce qui est compliqué, c'est que moi, l'exercice de la promo, il est pas facile, il peut être carrément pénible. Moi, j'essaye d'être juste, rendre hommage au film qu'on a fait et m'adresser le plus clairement possible aux gens qui m'écoutent. C'est difficile d'être juste parce que s'il y a un endroit où on n'est pas du tout objectif, c'est sur soi-même et sur son propre travail. Donc, j'essaye d'être honnête quand j'en parle. C'est deux univers très différents. Je vais m'y atteler tout à l'heure, vous me direz.
Et
si
vous
j'étais
répondrez
claire.
Franchement à toutes nos questions. Préférez lequel d'ailleurs, Barbac ou la fracture?
Et toi, tu préfères ton papa ou ta maman?
Bah oui, papa ou maman.
Moi, ce que j'aime, c'est l'éclectisme et c'est passer d'un univers à l'autre. Et si on me demandait de choisir, je serais bien dans la merde parce que je pense que les contraires s'attirent et que tout ça met du relief. Moi, j'avais une de mes profs de théâtre qui a été le plus importante pour moi, qui s'appelait Nada Strancar. Elle me faisait travailler la tragédie et elle me disait, il faut toujours que tu trouves le rire du tragique et le tragique de la comédie. Donc, je pense que après avoir fait Barbac, j'arrive sur le tournage de La Fracture mieux que si j'avais fait Fracture bis juste avant, en fait. Je pense que la vie, elle parachute très facilement. Les paradoxes dans la vie, c'est ça qui la rend belle. Sa télescope, c'était le mot que je cherchais. Ouais. J'avais mis parachute.
Bon, bref. Désenclavé, on peut dire aussi.
Mais dans la vie, ça marche tout le temps. C'est ça qui rend les moments rares et tout ça. Donc, dans le travail, ça marche pareil.
Okay. Ouais. Et Marina Foïs, j'attaque toujours Pop 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 par un morceau qui m'évoque l'invité. Et aujourd'hui, vous Marina, vous me faites penser à Lana Del Rey pour cet art subtil justement du détachement. Écoutez-moi ça. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm.
gets harder.
C'est un morceau signé Lana Del Rey. Lana Del Rey, ça se retrouve sur les playlists de Marina Foïs, ça ou pas?
Alors moi, mes playlists, elles sont hyper approximatives. Je connais peu de choses et j'ai des obsessions. Ce qui fait que, au résultat, j'écoute très très peu de choses. Là, j'ai découvert Lil Nas X, un peu en retard par rapport aux autres. Mais je n'écoute que ça. Et ça va durer 3-4 mois. Ouais.
Plus de Lana Del Rey, donc?
Non. Plus grand chose d'autre.
Bon. Avant de parler de votre bouillonnante actualité, ma chère Marina, entre Barbac de Fabrice Eboué et la fracture de Catherine Corsini, je me suis toujours posé une question à votre sujet. Vous avez été nommée plusieurs fois, beaucoup de fois même, aux Lumières, Globe, autres César, et toujours pour des rôles dramatiques. Mais par ailleurs, vous avez une puissance comique hors du commun, et dont vous faites une fois de plus la démonstration dans Barbac, mais aussi dans la fracture, sur un autre registre. Est-ce que ça vous chagrine qu'on souligne toujours plutôt le côté dramatique, ou vous êtes résigné au fait qu'on est dans un pays où de toute façon le drame l'emporte toujours sur la comédie, en tous les cas au cinéma?
Non, alors pour mon cas personnel, moi ça me va, du moment qu'on me fait signe, je prends, je suis contente. Non, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que, moi je suis pas d'accord avec quand on dit au César, les comédies ne sont pas nommées. D'abord, c'est pas tout à fait vrai, parce que les très bonnes comédies, celles de Nakache Toledano, celles d'Azanavicius, celles de Lartigo, elles sont nommées. Au minimum, les acteurs sont nommés, mais souvent les films aussi.
Les comédiens, c'est souvent par des rôles dramatiques qu'on décroche.
Oui, alors que paradoxalement, c'est vrai que Woody Allen, il le dit, presque, si ça se trouve, c'est plus difficile de faire des comédies. Si ça se trouve, c'est plus difficile d'être drôle et précis, drôle et juste, drôle et vrai, que dramatique, et peut-être. Mais encore une fois, c'est con d'opposer, je pense que... c'est pas grave. Souvent, les comédies, elles rencontrent le public... elles ont des gros succès en salle, et les drames, ils ont des gros succès au César. C'est pas grave, on se partage.
Ah non, mais moi, je suis farouchement opposé à cette opposition. Je la trouve totalement conne et stupide.
Ouais.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, parce que ce que je vous demandais, c'est est-ce que vous, d'être perçu plutôt, récompensé plutôt comme une artiste dramatique, ça.
Alors, l'avantage, c'est que j'ai jamais été récompensé puisque j'ai jamais gagné. Jamais, ouais. Donc ça. Non, mais.
Ça va venir.
Je sais pas. Non, j'ai pas de frustration à cet endroit-là, mais du tout.
D'accord.
Je pourrais alterner plus entre comédie et drame. Je trouve encore que en France, le cinéma d'auteur, il est plus riche, il est plus puissant, il est plus varié, il est plus pris au sérieux par les gens qui font le cinéma. Je trouve que par moment, la comédie, elle est un peu faite à la va-vite. Je pense que les gens ne la prennent pas assez. En fait, tout se tient et on prend pas les comiques assez au sérieux et on prend pas cet exercice-là assez au sérieux. Du coup, on paye pas assez les scénaristes, je crois. En tout cas, ils s'en plaignent. Donc peut-être que j'aimerais bien que la comédie en général soit revalorisée, mais pas tellement en ayant des Césars. Plutôt en donnant les moyens à l'écriture et aux gens qui savent l'écrire, ils sont rares. Ouais, c'est dur d'écrire une comédie.
Écoutez, tout le monde va être réconcilié avec Barbac de Fabrice Eboué, je crois, dont on va parler dans quelques instants. Vous êtes aussi, Marina, une des figures de proue du collectif Hashtag Maintenant on agit, ça c'était en 2018, hein, depuis 2018, qui se bat pour la parité dans le monde du cinéma. Arrivé à ce fameux 50-50 dans ce métier qui a longtemps privilégié les hommes. Ça, vous voyez des signes,
vous êtes. Alors, je vous corrige tout de suite, je suis pas une figure de proue. J'ai suivi le mouvement, j'ai été à côté, mais j'ai rien fait de mes petits doigts à part soutenir.
Non, mais j'ai vu des entretiens avec vous en parlant. Mais très bien d'ailleurs.
Non, disons que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette initiative, et je suis très proche de Zlotowski Rebecca, qui était justement à l'initiative de ce truc-là. Ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est de dire en fait, il faut agir concrètement. Les discours, c'est une chose. Les gens s'engagent pas toujours derrière les discours. Les chiffres, c'est simple. En fait, elles ont concrètement aidé les institutions à mettre en place la parité. Mmh. En fait, les intentions sont simples et la réalité est plus compliquée que ça. De fait, aujourd'hui, je crois que dans les festivals, dans les associations, par exemple au César, grâce au 50-50, la parité dans les instances dirigeantes est strictement respectée. Ouais. Il faut encore, pour le cas de l'Académie des Césars, sur les votants, il y a encore du travail à faire. Mais c'est on dit work in progress, non, c'est ça?
Je pense surtout que
ça ne retournera jamais en arrière, et c'est grâce à l'action du 50-50 qu'il faut absolument saluer, bien sûr.
Et continuons à aller de l'avant, puisqu'on ne peut pas retourner en arrière.
Bah ouais.
Hein
oui, sinon ça, on peut faire du sur place, mais ça n'arrangera personne.
C'est pas notre genre. Ouais. Marina Foïs, nous allons parler de Barbac et de la fracture et de bien d'autres choses encore dans la suite de Pop, en compagnie de Charline Roux qui nous rejoindra juste après le dernier morceau d'un groupe australien que vous aimez bien, je le sais Marina, c'est Parcells.
something else.
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux, bien sûr, qui vient d'arriver de ce pas altier, malgré un début de lumbago.
Oui, ça n'intéresse personne, bon. Antoine.
Mais si, ça intéresse la France entière. Bonjour, Charline.
Bonjour.
Et bravo pour cette abnégation.
Rien au monde, je ne rate ma comédienne préférée, j'en profite pour le dire.
Voilà, ça c'est fait. Deux films au programme aujourd'hui avec Marina Foïs, et on va commencer par La Fracture de Catherine Corsini.
Raph et Julie sont en crise, entre elles rien ne va plus, alors que Julie, au bout du banc, il faut dire qu'elle a passé la nuit à se faire agonir de textos fleuris par celle qui partage son lit. Alors que Julie donc se fait la malle, Raph choit assez lamentablement dans la rue et fait plier son coude dans un angle qui n'existe pas. Elle atterrit donc aux urgences, Julie la rejoint. Le service est en totale asphyxie, c'est un soir de manifestation parisienne des Gilets jaunes. Elles y font la rencontre de Yann, manifestant salement blessé, et sont couvées par Kim, une infirmière plus que dévouée. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé n'a rien de fortuite, puisque cette histoire, en partie, c'est celle de Catherine Corsini, votre réalisatrice. En quels termes, Marina, vous a-t-elle raconté cette nuit si particulière ?
Je ne me souviens plus quand elle me l'a raconté. Elle m'a parlé du projet de manière globale. Moi, ce qui m'a tout de suite intéressée, c'est de faire un biopic. On m'a jamais proposé ni de faire Simone Veil, ni de faire Blondie, rien. Donc là, j'ai eu l'occasion de faire un biopic de quelqu'un qu'on ne connaît pas, puisque c'est sa productrice.
Et vous la connaissiez, vous connaissiez
oui,
déjà.
Oui, je les connais les deux. Les deux, je les connais dans la vie. On est copines. Enfin, on se connaît depuis très longtemps. On se fréquente et je dois dire que le...
C'est un avantage ou un inconvénient, ça, quand on connaît si bien les gens, d'avoir à jouer leur vie d'un seul coup?
Là, c'était moi, très franchement, ça m'amusait. Moi, j'ai une curiosité maladive. Mm-hmm. J'aime bien, je pourrais rentrer dans les placards des gens, pourrais mater les films.
J'aime bien, vous pas s'enlever. Hein.
Ah, pardon,
je signale à nos auditeurs, mais
j'aime bien. Non, mais c'est un exercice très amusant. La plupart du temps, on est obligé de combler par notre imagination les trous des scénarios. Là, je pouvais vérifier les questions que je me posais.
Le tour de force du film, c'est qu'il vous tord autant qu'il vous fait rire, comme on dit en météo, alternance de pluie et d'éclaircie. Ce genre de montagne russe, est-ce que ça aide à raconter le chaos? Parce que c'est à ça qu'on assiste en réalité.
Oui, je pense que la force du film aussi, c'est de mettre des visages sur des choses, des réalités désincarnées qu'on nous a mal racontées, vite racontées, balancées à la gueule sur les chaînes d'infos en continu. Et là, tout d'un coup, c'est des histoires, des colères, des rages auxquelles Catherine Corsini donne des visages, et forcément l'incarnation, quand ça passe par l'émotion, évidemment, parce que le rire rassemble et que les larmes, ça fait du bien de rire ou de pleurer ensemble. Je pense que c'est ça la force du cinéma en général, et particulièrement du film. En tout cas, ce qui est clair quand on voit... Moi, j'ai vu des projections publiques. Ce qui est merveilleux pour nous, c'est que nous, on l'a fait sans savoir ce que ça produirait. Et les gens rient tout de suite, mais immédiatement. Et à la fin du film, c'est pas que le rire ou l'émotion qui est passée, c'est surtout une énergie. C'est un film qui... L'énergie passe de l'écran à la salle. Et ça, c'est merveilleux de voir l'impact direct d'un film sur les gens qui le voient. Et ça rappelle la beauté de la salle. Parce que malheureusement, on a dû voir les films beaucoup chez nous.
La Fracture de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaille, Aissatou Diallo Sagna et vous, Marina Foïs, ça ressemble à ça.
C'est dans la merde aussi, non ?
Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte.
Tu n'es pas toute seule, d'accord ? Tu fais jamais attention à ça. Jamais. C'est plus possible.
Vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde.
Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là ?
On en a plus.
Franchement, je vous admire. Hein.
C'est gentil, hein. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service.
Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de ne pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail.
Et tous ces personnages qui se croisent dans le chaos de cette nuit aux urgences ont un point commun, ils sont tous à la poursuite d'un idéal, qu'il soit sentimental ou politique, et ils se fracassent sur le réel. C'est là le point de partage, et je ne sais pas si vous êtes d'accord Marina, mais c'est ce qui manque cruellement à l'époque, non ?
Ah oui, une idéologie, un discours auquel se rattacher un idéal, voire une utopie, clairement. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on en aurait tous besoin. Les personnages du film, ils sont beaux parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas renoncé, pas encore, ou qui peut-être renonceront jamais. Soit à l'idéal politique, soit à l'idéal, le personnel soignant qui est assez bien représenté. D'abord, dans le film, tous les soignants sont joués par des vrais soignants, ce qui donne, les gestes sont évidemment très vrais, parce que les séries à l'hôpital, on en a vu plein. Mais ce qui est très beau aussi, c'est que c'est pas les grands gestes de la médecine. Il n'y a pas d'opération à cœur ouvert, il n'y a pas de gestes héroïques. C'est les gestes du quotidien qui n'en sont pas moins héroïques. Et c'est très beau de voir l'abnégation de ce personnel soignant. Il se trouve qu'on en a beaucoup entendu parler avec le Covid. Même si c'est l'asphyxie de l'hôpital, ça a préexisté au Covid, je pense que c'est devenu un sujet populaire. Ouais. Même si je crois savoir qu'ils n'ont pas obtenu les réponses qu'ils attendaient.
Non, pas encore.
Voilà, pas encore. C'est bien, on rentre en campagne. Peut-être question d'en reparler.
C'est le moment que j'aimais.
Ouais. on voit le geste au quotidien et on voit ces personnes qui ont choisi ces métiers-là. Il y a certainement une part de vocation, peut-être pas pour tous, mais il leur reste un idéal de comment on pratique ce métier. L'égalité, les patients arrivent, on s'en fout de qui ils sont. On va les classer. La hiérarchie, c'est pas une hiérarchie sociale, culturelle, sociale. C'est juste la hiérarchie de la douleur et de la gravité. Il y a une égalité de traitement, c'est beau. De voir des gens traités pareil, ça aussi, ça fait du bien de se débarrasser des a priori pour traiter le présent, traiter les gens pour ce qu'ils sont là à l'instant, pas pour d'où ils viennent, pas pour qui ils seront. Ça, c'est quelque chose, en fait, ça remet au cœur des valeurs dont je crois, même si on nous fait croire l'inverse, je crois que c'est de ça dont on a besoin, aussi de se mélanger, de se parler et de s'écouter. Et c'est présenté dans le film comme un idéal, une possibilité, et je ne crois pas quelque chose d'inatteignable, comme un but pas si loin.
Alors, ce qui permet aussi d'entrer dans le film, c'est qu'il est toujours raconté avec la bonne distance, c'est-à-dire pas de manière trop frontale et pas non plus de manière désengagée. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, cette bonne distance ?
Moi, j'avais à prendre en charge ma partie, qui est celle d'un couple au bord de la rupture. Donc, j'ai pas, les acteurs, ils ont pas à prendre en charge tout le film. Ça, c'est vraiment de la mise en scène. Après, Corsini, elle était dans la merde, parce que elle se raconte elle-même. La moindre des politesses, c'est d'avoir de l'humour et de charger ce couple de bobos qui est ultra représentatif du milieu dans lequel il vit et qui va aussi naïvement, parce qu'on pourrait croire que le personnage le plus naïf, c'est le personnage de Pio qui joue donc un gilet jaune. Le personnage de Valéria, il a aussi sa part de naïveté et de méconnaissance de l'autre, en fait. Voilà.
C'est pour elle que le voyage est le plus long, hein, pour le coup. Et alors, c'est aussi, vous le dites, un film sur la résistance au quotidien qui prend différentes formes, que ce soit effectivement par le personnage de Pio Marmaille qui défend des idéaux, ou par celui de la formidable Aissatou Diallo Sagnal, infirmière qui refuse de donner les noms des manifestants.
Ouais.
Et votre personnage, vous, a ceci de particulier, c'est qu'il passe de presque simple visiteuse à résistante, elle aussi, à sa manière. La capacité à résister, est-ce que c'est de cette faculté-là aussi dont nous manquons cruellement et qui est l'un des sujets du film?
Ouais, je sais pas si en France on en manque, parce que je crois savoir, quand on voyage un peu, les Français, ils sont perçus comme très râleurs et en train de faire la grève tout le temps, ce qui est à double tranchant. Ça veut dire aussi, c'est que ce sont des gens qui sont capables de dire non, qui disent pas oui à tout. Et moi, dans le film, ça me bouleverse. Le moment où, très rapidement, sans en faire un sort, hein, sans faire un grand discours, sans faire la morale, on me demande de faire ça, non. Moi, j'ai le choix de dire non. Je suis pas obligée d'obéir bêtement. J'ai un cerveau qui marche, j'ai des convictions, j'ai une morale. Et je ne l'oublie pas parce que je suis dans l'urgence et je m'y tiens. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je sais que ça se passe comme ça. Moi, j'ai une sœur qui est médecin et qui a choisi une carrière hospitalière, qui a bossé à Saint-Denis, donc qui a fait beaucoup de médecine, qui soigne des gens qui n'ont pas leur papier, tout ça. C'est un engagement physique et politique. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, j'avoue.
Et sur un plateau de cinéma comme celui de Catherine Corsini, justement, c'est quelque chose que vous retrouvez, cette liberté de mouvement? Parce que je crois comprendre que vous avez pu travailler, improviser, chercher différentes pistes. Finalement, quand vous voyez le film, le résultat qui est absolument magnifique, je le redis, vous êtes surprise, étonnée?
Ben, ce qu'on mesure pas complètement, c'est comment elle filme le mouvement. On sent qu'elle essaye de le créer. Ce qui est intéressant avec Corsini, c'est que on fait beaucoup de prises, que les prises durent très longtemps, mais qu'on commence jamais tout à fait au même endroit. C'est-à-dire qu'elle cherche pas un résultat qui préexiste. Et ça, c'est très agréable pour les acteurs. C'est-à-dire qu'on a le droit d'emprunter tous les chemins. On a le droit d'être très très mauvais. Elle nous le dit. Quand on est très mauvais, mais c'est vrai que il y a pas de risque d'être très très bon si on n'est jamais très très mauvais, en fait. Et puis la justesse, tout le monde s'en fout, en fait. Ouais. Et donc c'est un long parcours avant de trouver une scène, mais on a le droit d'emprunter tous les chemins. Mais l'autre chose qui était très intéressante pour moi, surtout pour mon personnage, dont au fond il n'est jamais question, que c'est quelqu'un qui regarde, qui réagit beaucoup, c'était de trouver la place dans le groupe, quoi. Comment exister sans qu'il soit question de vous? Et c'était un peu notre travail à tous, de faire exister le mouvement du groupe plus fort que les mouvements individuels. Ça, ça m'a plu beaucoup.
Alors, La Fracture, ça, c'est le premier film de Catherine Corsini. Enfin, c'est pas son premier film, mais c'est le premier film qui sera à l'affiche.
Non, parce qu'elle est âgée, quand même. Hein. Non, ça se voit pas tant que ça. Elle est beaucoup plus vieille que ce qu'elle paraît. Ah, et je tiens à le dire.
Ça, c'est un scoop.
Oui, oui.
Catherine Corsini, on vous embrasse très fort. Ça, c'est un des deux films qui seront proposés donc le mercredi prochain, le 27 octobre. Le deuxième, c'est Barbac, de Fabrice Éboué, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais pour l'instant, il est 16h30 et c'est l'heure des Pop News.
Aaron Sorkin, showrunner de la série The West Wing, scénariste pour Fincher dans The Social Network ou encore réalisateur des sets de Chicago, a dévoilé la bande-annonce d'un film qu'il porte depuis fort longtemps. Being de Ricardos suit pendant 5 jours, en septembre 1952, Lady Ricardo, soit Lucille et Ricky, des personnages de fiction, incarnés par Lucille Ball et Daisy Arnaz dans la sitcom I Love Lucy. Deux acteurs adulés du public, mariés dans la vraie vie et incarnés dans le film par Javier Bardem et Nicole Kidman.
Let's do our show.
I get paid a fortune to do exactly what I love doing.
They got their money's worth.
Pictures up.
I work side by side with my husband, who is genuinely impressed by me. And all I have to do to keep it is kill for 36 weeks in a row.
Okay, let's go.
And then do it again the next year.
Et Being the Ricardos, ce sera le 21 décembre sur Prime Video.
Apprendre, cuisiner et manger. En voilà un beau projet que l'on peut exaucer grâce aux camarades gastrono-geeks, docteur S. Popot Culture et Nota Bene, directeur S. Histoire, notamment sur sa chaîne YouTube. Les deux publient Cuisiner l'Histoire, 35 recettes inspirées par les grands personnages historiques. Des recettes qui mettent en lumière les hommes et les femmes qui ont marqué leur temps, mais également des époques ou des lieux clés, qu'ils soient explorateurs, gangsters, souverains ou encore héros de guerre. Vous saurez tout sur le contenu de leurs assiettes, des Mayas et la culture du maïs à Al Capone pendant la prohibition. En passant par Nefertiti et Vatel. Chaque recette est accompagnée d'une explication historique, comme le gras, c'est la vie. Voilà un livre de cuisine indispensable, édité par Hachette Heroes.
Snoop Dogg revient et bien accompagné puisque c'est sous forme de super groupe qu'il réapparaît, nom du projet Mount Westmore, identité de ses coéquipiers Ice Cube, E-40 et Too Short, titre dévoilé Big Subwoofer. Big Subwoofer à retrouver sur le projet Snoop Dogg Presents The Algorithm qui sortira le 12 novembre et Snoop performera en février à la mi-temps du Super Bowl 2022 et bien accompagné encore une fois puisque Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blige seront de la partie.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Non, si, c'est moi.
Desi Arnaz.
Javier Bardem, bien entendu.
Enfin, loin, Charlie, très loin.
Une fois sur deux, j'arrive à la voir. Marina Foïs, changeons d'ambiance, car mercredi prochain arrive également donc Barbac, le nouveau film de Fabrice Éboué. C'est bizarre, on fait le promo le même jour, c'est très très étrange. L'histoire de Sophie et Vincent, un couple de bouchers. Charline, j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même, j'imagine. Enfin, je veux dire, résumez-nous l'argument.
Et je vous rappelle que je ne mange pas de viande et j'espère que ce ne sera pas retenu contre moi. Vincent et Sophie sont mariés, bouchers en crise, privés comme professionnels. Tout bascule contre Vincent quand Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique. Pour faire disparaître le corps, il en fait un jambon. Le problème, si toutefois le meurtre n'en était pas déjà un, c'est que Sophie le vend par mégarde et que le dit jambon fait un véritable tabac. Alors que vont-ils faire? Eh bien, récidiver, bien sûr.
Lucas, quel morceau vous ferait plaisir?
Il est vegan.
Ah,
il y a des choses qui arrivent. Hein, ma démarche est personnelle et j'estime que je dois l'imposer à personne. Du coup, ma chérie, je te serre la cuisse comme d'habitude?
Non. Du coup, je mange plus de viande.
Mais puisqu'il te dit que c'est une démarche personnelle.
Oui, mais justement, si elle mange de la viande et qu'après elle m'embrasse, c'est comme si j'en mangeais. Donc elle nuit à ma démarche personnelle.
Je te sers des selles, du coup.
Non, une zone de contact énorme avec le poulet, ça va pas être jouable.
Ça nuit à votre démarche personnelle.
C'est ça, voilà, ça vient.
Barbac, le nouveau film de Fabrice et vous. Alors parlez-moi un peu de ce rôle de jambon à l'hôpital dans cette nuit de folie. Non, qu'est-ce que
c'est
je
pas. Raconte non, c'est pas, vous avez...
il existe aussi une bande-annonce hein, beaucoup plus trash et très visuelle. Et Fabrice Eboué a d'ailleurs raconté que la mauvaise bande-annonce avait été diffusée dans un cinéma devant des enfants qui attendaient un dessin animé. Vous pensez que de nouvelles vocations de vegan sont peut-être nées à cette occasion?
Je ne sais pas, mais ils regardent Sweet Games, donc ils peuvent bien voir la bande-annonce de Barbac.
Ah oui, la série coréenne qui tombe.
Oui.
Bon, en même temps, quand on est enfant, c'est bien d'être un peu traumatisé de temps en temps, d'ailleurs.
Je crois qu'il faut.
Il faut.
Moi, c'est comme ça que j'ai élevé les miens, en tout cas, en les traumatisant.
En les traumatisant.
Il ne fallait pas faire ça.
Mais bien sûr qu'il faut faire ça.
Ah, on va avoir des signalements, tous. On a tous traumatisé les nôtres. On parlait de films sociaux il y a un instant. Alors, celui-là, il est aussi un peu d'une autre manière, dirons-nous, puisque le couple que vous incarnez, c'est aussi une incarnation de David contre Goliath, soit la petite boucherie avec l'amour du produit, du métier, contre la Barbac industrielle aux hormones. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une moralité, mais j'imagine que ça compte.
Oui, c'est l'histoire d'un couple. Enfin, il y a plein d'histoires dans cette histoire-là. Fabrice Eboué dit que c'est une comédie romantique. Il se trouve que c'est une comédie romantique gore, donc il réinvente le genre, ce qui est toujours intéressant. C'est l'histoire d'un couple qui végète sentimentalement. Vous l'avez dit, qui est un peu en bout de course. C'est aussi l'histoire d'un couple un peu humilié. Enfin, la boucherie ne marche plus. Ils ont que des amis plus riches, qui partent plus en vacances. Ça brille tout partout autour et ça brille plus chez eux. Je pense que l'humiliation sociale, la honte, ça peut nourrir l'amertume, voire la violence. C'est un peu l'histoire de ce couple-là.
Ouais.
Un couple de bouchers qui végète, j'ai bien entendu.
Ah ouais.
Hein, c'est pas mal.
Ouais. Mais j'ai des... Alors, en ce moment, j'apprends l'espagnol pour un film que je tourne en espagnol.
Si
parce que je manie vachement moins bien la langue française. J'ai dit parachuter au lieu de télescoper. Enfin, vous voyez bien. Je galère avec cette langue qui est pourtant la mienne.
Désenclavé, non?
Désenclavé, ouais.
Un petit côté David contre Goliath et Roméo et Juliette, parce que votre fille dans le film tombe sous le charme d'un suceur de carottes, hein, comme on l'appelle dans le film. Un vegan tellement horripilant, tellement radical, qu'on rêve d'en faire des carottes râpées. Et à travers lui, c'est toute une époque de plus en plus radicalisée et tendue qui s'exprime. Comment est-ce que vous faites, vous, Marina Foïs, dans la vie de tous les jours, pour rester calme dans ce genre de situation?
Alors, moi, déjà, je suis rarement calme, en fait. Donc, je cherche la modération et la quiétude. À l'heure qu'il est, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, je ne suis pas un très bon exemple. Dans le film, le personnage, le gendre, il est, évidemment, on a envie de le taper, tout
il
ça.
Est
mais
il n'y
en
génial.
A aucun. Oui, il est super. Mais il n'y en a aucun pour sauver l'autre. Ouais. C'est que des gens affreux. Alors, il y a des personnages affreux, comme ceux incarnés par Virginie Hauck, le couple, qui sont atrocement racistes. Eux, il n'y a rien à racheter. Ils sont que affreux. On n'a pas envie de les comprendre. Le couple des bouchers, ils sont filmés avec un peu plus d'empathie. On peut comprendre le mécanisme de l'amertume. On peut leur trouver des excuses. Mais en vrai, tout le monde s'en prend plein son grade.
Mais vous le disiez, votre personnage est le moteur en fait de ce couple et de ses exactions. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on adhère en tant que spectateur à son manque total de morale et d'empathie. En fait, à cause de vous, oui, j'accuse Marina Foïs. On l'aime bien, Sophie. On a envie qu'elle réussisse.
Mais écoutez, c'est pas moi qui ai fait le succès de Faites Entrer l'Accusé, de ces émissions de faits divers. Ouais. Je veux dire, ils nous fascinent.
Qu'elle consomme goulûment.
Les monstres. Voilà. Elle consomme goulûment, mais elle, c'est pas la seule. Moi-même, le fait divers m'intéresse. Je pense qu'on a tous un appétit. Et je sais pas s'il est sordide ou juste. Mais en fait, les monstres, ils incarnent un truc qui nous fascine, qui nous révolte, qui nous fait peur, mais qui nous fait. Eux, ils s'autorisent la transgression. Je pense que ça fait partie de la littérature. Elles sont nourries. Enfin, c'est quelque chose qu'on partage, là c'est traité en comédie, mais en vrai, c'est le comment dire, la noirceur humaine, c'est fascinant, non?
Ah ben oui, c'est fascinant, évidemment que c'est fascinant. Mais Marina, alors là, c'est à l'actrice consciencieuse que je m'adresse. Est-ce que vous avez poussé la conscience professionnelle, justement, jusqu'à goûter du jambon d'Iran?
Bien sûr, j'ai tué un vegan, bien sûr, et j'ai, évidemment.
Et alors?
Évidemment, c'est délicieux.
Ceci dit, il faut expliquer le pourquoi les véganes. C'est parce que comme ils sont herbivores, forcément la viande est meilleure.
Oui, c'est l'explication que propose le film. Bon.
Et d'ailleurs, vous le disiez, Fabrice Eboué envisage le film comme une histoire d'amour. Donc son personnage est prêt à tout pour garder intact l'amour de sa femme et sauver son couple. Est-ce que vous l'avez joué très au premier degré, comme dans une comédie romantique? Est-ce que vous aviez cette intention-là en tête?
Ah bah oui, mais je pense que la comédie, il faut la jouer très très au premier degré, il faut trouver les enjeux de base, il faut avoir absolument pas conscience de ce qui est drôle, je crois, sinon on est niqué. Enfin moi j'y arrive pas en tout cas, j'arrive pas à être dedans et dehors, donc oui, je pense aux enjeux vitaux de cette femme qui veut reconquérir le monde, en fait, qu'on peut plus. Elle s'emmerde, elle s'ennuie.
Donc à tous les fans de Couteau de Notting Hill, c'est pas tout à fait pareil. Je vais préciser quand même.
Dans Barbac, Marina, vous êtes donc Sophie, la femme de Vincent, qui est fascinée, le mot est faible, par les faits divers. C'est donc pas tout à fait un rôle de composition. Et attendez, attendez, votre réponse va être analysée. Celle que vous allez me faire, tiens, quand je vous dis est-ce que vous aimez les faits divers, Marina, et que vous me dites...
Oui, j'adore. Ça m'intéresse beaucoup.
Oui, développer un tout petit peu.
J'ai beaucoup lu, j'ai même beaucoup traîné aux assises, moi.
Ouais.
Parce que... Faut que j'ai continué à parler.
Non, c'est très bien.
Et j'ai été amie, je suis encore amie, mais sauf qu'on ne se voit plus, avec Jean-François Abgral, qui a permis l'arrestation de Francis Holm, quand même, qui a permis de découvrir sa culpabilité dans plusieurs crimes.
Quelques éléments.
Qui a écrit un livre dessus.
Et quelques éléments de réponse qui vont être analysés en direct par un spécialiste.
Une réponse trop floue, pour être sincère. On perçoit très clairement ici le profil dangereux qui s'en dégage. Marina Foïs, la découpeuse de Boulogne-Billancourt. Une affaire sensible que vous pouvez réécouter en podcast.
Merci Fabrice Drouel, merci beaucoup.
Je les connais toutes les voix de France Inter, vous savez.
C'est vrai.
Mm-hmm.
Vous préférez laquelle?
À vôtre.
Ah ben oui, mais oui, c'est déjà...
Et celle de si Julia Foïs, que j'aime bien.
Bon, Fabrice Drouel, merci infiniment. À noter également au casting du film L'homme qui ne quitte pas une pièce sans remonter son col en cuir, Christophe Ondelat.
Alors vous êtes plutôt, faites entrer l'accusé, plutôt Simone Weber, la diabolique de Nancy, ou Yves Dandonneau, le mort-vivant? J'ai une passion pour les titres de faites entrer l'accusé.
Ouais,
c'est...
ouais. Je crois que tout m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on élabore le projet. C'est-à-dire que... et la naïveté, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le crime parfait n'existe pas. Si je vous donne un tip, le crime parfait, c'est un crime sans mobile. Donc, si moi, demain, je vais tuer, quelque part dans le monde, quelqu'un que je ne connais pas sans raison, il y a peu de chances qu'on me retrouve. Sinon, on retrouve, je veux dire, avec la police scientifique, c'est impossible. Néanmoins, les gens qui tuent encore aujourd'hui, il y en a, ils élaborent quand même. C'est une solution, souvent, de tuer. C'est censé solutionner quelque chose. Donc, on envisage le monde d'après, quand cette personne-là ne sera plus là. Alors que il n'existera pas, ce monde d'après. Et toute la construction, l'élaboration, le projet, je dois avouer que ça me fascine.
Mais dans Barbac, on frôle le crime parfait, parce que le moyen de se débarrasser du corps est quand même...
Ouais, mais vous voyez bien où il finit, enfin, sans spoiler tout,
mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes qui s'entassent.
Ouais, qu'on ne retrouve pas pour le coup.
C'est tellement rafraîchissant. Moi, ça m'a fait penser à Moki, dans le mauvais esprit.
Oui, hein,
cette noirceur
pourrait.
Ouais. Et dans cette drôlerie, ce truc totalement loufoque, barré, quoi.
Il y a un grand écart qui est pas mal. Il y a une espèce de pseudo-réalisme quand il traite du couple, justement. Ouais. Et en même temps, un truc complètement baroque quand il met en scène les crimes et tout ça. C'est ça. En fait, mais même le pitch, il a aucun sens. Mais c'est pour ça qu'il est très drôle. Moi, c'est ça qui m'a fait rire. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est...
De boucher qui bouffe du vegan. Donc, Barbac, c'est à découvrir mercredi prochain. C'est signé Fabrice Eboué. Et c'est évidemment avec notre invitée Marina Foïs. Marina, dans la suite de Pop, il sera question de...
Faut pas avoir honte.
Faut pas avoir honte.
If I back you against death, you would need to let me take over.
Whoa, Nelly!
Lil Nas X, la série Succession, le film Les Intranquilles et un peu de pop culture par-dessus tout ça. Ce sera juste après un petit gold, comme on dit. Tiens, les Beach Boys, Good Vibration, c'était en 67. Ça est récemment repris dans une version déjantée par les excellents de Ramon Pipin. Écoutez ça.
I love the colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her hair.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Somehow closer now.
softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me excitations.
Boys, évidemment, Good Vibrations, repris récemment donc par les excellents au ukulélé, c'est une version on va dire alternative, et les excellents qui seront en concert au Café de la Danse lundi prochain. Allez, petit coup de main pour des copains. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
Bonjour, coucou, madame, mademoiselle, quel est votre prénom ?
Alors ce son, c'est un extrait de la séquence Derrière le paravent.
Ah ouais.
Qui a lieu dans l'émission de France Inter, Les choses de la nuit, et c'est ce qui vous évoque la pop culture, Marina, quand on vous pose
oui,
la
non,
question.
Parce qu'on m'a demandé, je sais pas, moi j'ai grandi sans la télé, et donc j'ai beaucoup écouté France Inter. Moi j'ai vraiment grandi avec France Inter, surtout les émissions de la nuit, Macha Béranger qui était mon idole, et Jean-Charles Asquero le dimanche soir, c'était extraordinaire. D'ailleurs, je comprends pas, je m'adresse à Laurence Bloch, non mais c'était une émission géniale, c'était avant, parce qu'aujourd'hui il y a un truc, les micro-trottoirs, tout ça, les réseaux sociaux, ça permet de donner la voix aux anonymes, mais là c'était une très longue rencontre. Ouais. Donc lui ne voyait pas la personne qu'il interviewait, qui était une personne de la vie normale. Et c'était comme un entre l'entretien et la psychanalyse, ça durait une heure. Et à la fin, la personne sortait de derrière le paravent. Il racontait ce qu'il avait imaginé, ce qu'il surprenait, ce qui est tout ça. Et c'était hyper bien. Et j'étais insomniaque pendant longtemps. Et donc j'ai vécu avec France Inter à cause.
Grâce.
Ou grâce.
Ah, peut-être un mélange des deux. D'abord, enfin, c'était ça pour vous, l'idée de la pop culture. Bon, et ça tombe bien parce que là, il est 16h48 et c'est l'heure de votre pop liste, Marina. Que lisez-vous, que regardez-vous, qu'écoutez-vous, vous allez tout nous dire. Alors en préparant cette émission, on vous a demandé quel était votre livre du moment, mais on n'a pas eu de réponse à cette question. Au moment où je vous parle, en tous les cas, je ne vous cache pas que j'aimerais bien... savoir pourquoi.
Mais parce que j'ai décidé d'être transparente avec vous, Antoine, et je vous dois la vérité. Je ne lis plus. J'ai beaucoup lu. Comme je vous le disais, j'avais pas la télé. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la télé ? On lit. Et à l'époque, les enfants, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait rien. On vivait, je vivais dans la boue avec des livres. Ça, c'est ma jeunesse. Aujourd'hui, entre le travail, les enfants, la vie sociale, et je ne sais pas quoi, peut-être la flemme, peut-être la vieillesse.
Et les scénarios.
Je n'ai plus le temps de lire, mais je me trimballe toujours avec des livres. Donc là, actuellement, avec moi, j'ai l'Anomalie. Que je dois lire. Le bouquin de Diatkin qui est sorti il y a un an sur Bulogier. L'Art de perdre de Zeniter. J'ai le fantasme de les lire un jour, mais je ne lis plus en ce moment.
Ces livres attendront leur tour. Pour le film, vous avez choisi Les Intranquilles. C'est un film réalisé par Joachim Lafosse avec Leïla Bekti et Damien Bonnard. Charline, c'est un Joachim Lafosse dont on parle beaucoup ces jours-ci avec ce beau film où il est question de bipolarité. Résumez-le-nous. Charline.
Et Leïla et Damien s'aiment, mais voilà, Damien souffre d'un mal qu'il n'est pas complètement prêt à affronter et impose à sa famille son intranquillité.
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout ça, tu finiras.
C'est papa qui a les temps. Je sais pas ce qu'il veut faire.
Quoi? Un salto, il va se prendre un salto. Ramène des poissons. Combien de poissons? 1, 2, 3. Je veux m'enfuir.
Le con, il l'a fait.
Je m'enfuis.
Tout ça, tu finiras.
Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la
vie. S'il faut pas.
Je veux pleurer, je veux rire.
Je voulais pas avoir.
Faut pas avoir quoi?
Je veux pas avoir honte.
Bah voilà, faut pas avoir honte. Faut jamais avoir honte. Jamais.
Les intranquilles de Joachim Lafosse, on est bien là aujourd'hui. On n'arrête pas de faire de cacottes et chaudes chez Kouba. Alors, pourquoi ces intranquilles, Marina?
C'est le dernier film que j'ai vu en salle. Parce que j'ai pas le temps en ce moment d'aller au cinéma et que la salle, c'est très important. On voit les films différemment et ce serait dommage de pas se battre pour préserver ce. C'est un des seuls endroits quand même où justement on se trouve assis à partager des émotions avec des gens qui socialement, culturellement, ne sont pas de votre famille, n'ont pas le même âge, etc. Et le film, il est hyper intéressant parce qu'au fond, moi j'aime bien quand on considère le spectateur et qu'on le rend responsable de penser ce qu'il a à penser. Et en fait, à la fin du film, parce que ça raconte la bipolarité, comment vivre, qu'est-ce qu'on fait de la maladie, qu'est-ce qu'on fait de l'anormalité, comment... Et le film n'apporte pas de réponse claire, en fait, on en sort perturbé, donc obligé d'être responsable pour essayer d'avoir un avis qui soit personnel. Et comme je pense qu'on crève de penser en hashtag et en formule toute faite, j'aime bien qu'on me laisse entre les mains une matière à réflexion. Et puis... La mise en scène est très étonnante parce que c'est un film qui est en même temps agité et lent, c'est très surprenant, donc très personnel. Et puis les deux acteurs, les trois aussi, le petit Gabriel Chama qui a un nom composé. Mais bref, l'enfant très singulier, il a une écoute absolument bouleversante. Et les deux acteurs, Bechti et Bonnard, qui sont d'une... Moi, j'aime bien quand on incarne. J'aime bien les acteurs qui fabriquent pas et dont on a l'impression qu'on vole des moments de vérité, qu'on les transperce tout ça. Et eux, ils s'offrent à la caméra de manière épudique et ultra généreuse. Et je les ai trouvés absolument formidables tous les deux. Donc voilà.
Les intranquilles, Joachim Lafosse. Passons à la série, votre série du moment, c'est Succession. Alors, Charline, attendez, parce que Marina pose une condition.
Ah oui.
Pour qu'on en parle, c'est que surtout, on ne spoile pas la saison 3 qu'elle n'a pas encore vue. Faites gaffe à ce que vous dites.
Alors, je vais me permettre d'emprunter un fort joli titre trouvé par Libé. Succession, c'est les Roy de la jungle. Roy, le nom de cette famille richissime et surpuissante à la tête d'un des plus gros conglomérats de médias du monde. Et comme le titre l'indique, personne ne veut être déshérité.
Bien. Alors, Marina. Nous avons écouté vos conditions. Vous n'avez pas encore vu la saison 3.
Non.
Et c'est justement...
Ouais.
Attendez, c'est justement la bande-annonce de cette saison que nous allons diffuser. Alors, je vous demande de vous boucher les oreilles. Bouchez bien les oreilles, voilà. Vous m'entendez encore un peu?
Ouais, un petit peu. Bah, vous
alors, bouchez mieux. Alors, attendez, il faut boucher plus fort, hein, comme on dit dans Barbac. Vous m'avez entendu, là?
Hein?
Non, j'ai dit, il faut boucher plus fort, comme on dit dans Barbac.
Ah ouais.
C'est amusant. Enfin bon, allez, bande-annonce.
You are Kendall Roy.
Is it true? He's on his way?
Yeah, I don't see him yet. With his stupid walk.
No drama. We're good. Revolution will be televised. He's our dad, but he was going to send me to jail. He'd do the same to all of us.
Chevy, are you okay?
Are you part of this family or not?
If I back you against dad, you would need to let me take over.
Whoa, Nelly!
C'est bon, Marina, je lui fais des grands signes, vous pouvez déboucher les oreilles. Alors, vous n'avez pas entendu du tout ce qui va se passer dans cette saison 3, donc pourquoi faut-il voir les saisons 1 et 2?
Alors, bon, moi je les ai découverts en retard, hein, parce que je suis en retard sur plein de trucs culturellement, mais, alors, moi, personnellement, je veux parler d'un truc, c'est que je suis tombée amoureuse de Jeremy Strong, mais vraiment, je l'aime. Je sais pas s'il m'entend.
Il le sait.
Maintenant, mais Jeremy, c'est pour ça que j'en parle. J'aimerais qu'il le sache. C'est efficace comme une série. D'ailleurs, c'est pour ça encore que je crois que je préfère le cinéma. Il y a une écriture, il y a une efficacité que je trouve parfois moins sexy que la narration qui peut être plus bordélique ou surprenante au cinéma. Mais en fait, c'est les damnés 2021. Sauf que les damnés, c'est un héritage séculaire. C'est genre là, c'est une fortune qui est plus récente. mais c'est quand même comment on se déchire autour du pognon. Moi, ça me fascine. C'est pas de là d'où je viens, ça ne m'arrivera jamais, c'est trop tard. Je ne vivrai pas ça, mais au fond, ce que je trouve très bien foutu, et les acteurs sont brillants, c'est qu'ils se déchirent pour des milliards, pour du pouvoir, pour la place, pour le truc. Mais au fond, ce qu'ils veulent, c'est être regardés par papa et savoir au hasard lequel ils préfèrent. Et en fait, ce truc, ça nous ramène tous à un truc très primaire qui au fond, est bouleversant quand on voit les mecs jouer avec des milliards. Et je trouve que c'est hyper juste sur la complexité des uns et des autres, quoi. Voilà.
Très bien. Mais il me manque juste un peu de musique. Votre chanson du moment, c'est celle de Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name, dont on parlait déjà tout à l'heure. Extrait.
I called it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in a dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like,
Ex, j'ai annoncé un extrait, hein, pardon, mais on vous l'a déjà diffusé en entier, on recommencera. Quel effet a cette chanson sur vous? Pourquoi cette folie, Lil Nas X, en ce moment? Qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas. J'aime aussi What I Want.
Ouais.
Je sais pas, je le trouve puissant et je le trouve courageux par ailleurs. Ouais. Et je trouve que sa musique, elle impacte le corps, quoi. Et comme je suis très seule, puisque je suis très seule. Non, mais je suis en tournage, donc sachez que je vis avec Jeremy Strong et Lil Nas X. C'est avec eux que je partage ma petite chambre d'hôtel.
À bientôt, Jeremy Strong dans un clip de Lil Nas X. Et là, c'est un super bon
coup. Ouais.
Merci infiniment, Marina, de nous avoir
merci à vous.
Rendu visite aujourd'hui. Je rappelle que La Fracture de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaille, Aissatou Diallo Sagna et vous, Marina, c'est à découvrir mercredi prochain et c'est très chaudement recommandé par Pop, tout comme Barbac, le film de Fabrice Eboué, qui sort également mercredi prochain. Voilà, Marina est absolument sur tous les fronts. Comme on dit, elle était sur celui de Pop, aujourd'hui. Merci, Charline.
Merci.
À demain et merci à toute l'équipe de Pop et à Thomas Langlin qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission. Ed Sheeran sera notre invité, c'est un événement pop. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop.